Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdin.
Bonjour à tous, je suis très contente d'être avec vous pour un nouveau numéro du meilleur de Sud Radio. Pendant cette prochaine heure, je vous propose qu'on réécoute ensemble des extraits des temps forts de cette semaine, comme tous les week-ends. Et on commence avec le Loft Music. Mardi, Yvan Cujus recevait Vincent Niclot. Après plus d'un million d'albums vendus et 8 albums certifiés or et platine, le chanteur est revenu sur son véritable coup de cœur pour les prêtres orthodoxes, découvert dans l'émission The Voice, avec qui il a sorti son album Esperanto. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Bonsoir Vincent Niclot.
Bonsoir Yvan.
Merci d'être là Vincent.
Ben merci de m'inviter, c'est toujours un plaisir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu d'ailleurs.
Mais oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, exactement, parce que tu es déjà venu dans le Loft et j'en garde un très bon souvenir, Vincent Niclot. Quelle belle performance, j'allais dire, et quelle belle idée de retrouver ce quatuor, ce quartet de vocal, les prêtres orthodoxes pour cet album Esperanto. Surtout que vraiment, tu les as, j'allais dire, tu as mérité cet album tellement tu as été assidu pour aller à leur rencontre, puisque tu les as entendus pour la première fois dans The Voice, et puis après, tu es parti à la recherche, et ça n'a pas été chose facile, Vincent Niclot.
Oui, c'est vrai, c'était pas du tout prévu, ce projet. Et en fait, j'écoutais The Voice en fond, comme ça, j'ai entendu leur voix. Alors, j'ai entendu ces 5 prêtres. Au départ, je ne savais pas que c'était des prêtres. Je me suis retourné et j'ai vu que c'était des garçons avec des robes. Mais qu'ils avaient dévoué leur vie à Dieu. Et en fait, moi, j'ai flashé sur leur voix, leur polyphonie. C'est vrai que heureusement, les membres du jury ne se sont pas retournés. Mais du coup, moi, je me suis dit, je rêverais de travailler avec eux. Et on a réussi à se rencontrer et ils ont accepté.
Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté, j'allais dire ? Parce que quand tu parles de leur voix, tu parles de quelque chose de très intuitif, en fait. Tu parles aussi de choses sacrées, c'est-à-dire dans le sens d'une mystique, de quelque chose de presque mystérieux. C'est toujours quand même le destin de la voix d'être mystérieuse, finalement.
C'est ça, c'est qu'il y a plus que du mystère dans leur voix. Leur voix, elle est vraiment chargée d'abord d'un parcours qui m'a fait me poser beaucoup de questions. Pourquoi, à leur jeune âge, 25 ans, ils dédient leur vie à Dieu. La réponse, elle est dans la musique. C'est la musique qui les a amenés à la religion. Et puis, elle est chargée, évidemment, de quelque chose de peut-être connecté. Ils sont très connectés. Et je crois que ça se sent. Ils ont beaucoup d'émotions dans leur voix. Moi, j'ai toujours été fasciné par le pouvoir que pouvait avoir une voix et leurs 5 voix, ça vient toucher directement au cœur. Et je crois que c'est pour ça aussi que, eh bien, Esperanto, l'album, a été bien reçu par le public, parce que le public ne se trompe pas. Le public, il entend quelque chose, ça lui plaît ou ça lui plaît pas, et en l'occurrence là, ça avait l'air de lui plaire.
Ça lui plaît, oui, puisque cette nouvelle édition limitée spécial pack qui est sortie le 2 avril va être le disque, en tout cas, est disque de platine quasiment déjà. Peut-être il l'est d'ailleurs, peut-être Vincent déjà, et on me l'a pas dit. Mais bon, en tout cas,
il n'est pas loin.
Dis-moi, bon Vincent, ça a dû te rappeler cette époque où avec ton papa ou tes parents, en tout cas, tu es complètement scotché quand tu entends, alors à la radio ou ailleurs, peut-être Placido Domingo ou peut-être même Pavarotti. Rotti, qui chante Nessun Dorma. C'est-à-dire que là, tu te dis, parce qu'à l'époque, tu étais plutôt sur de la pop, tu étais comme les jeunes de ton âge, pas trop sur le classique, et tout d'un coup, il y a un déclic. Qu'est-ce qui fait avec le recul ? Qu'est-ce qui a fait ce déclic-là ? Comment tu l'expliques maintenant, Vincent Niclot ?
C'est le pouvoir de la voix, c'est ce qui m'a toujours fasciné. C'est-à-dire que j'ai reçu, par une onde radio, j'ai reçu la voix de Pavarotti, qui chantait Nessun Dorma, et je me suis mis à chialer, je me suis mis à pleurer, à chaudes larmes. C'est quelque chose qui m'a bouleversé à jamais, quoi, et qui a changé ma vie. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais savoir faire ça ? Qu'est-ce que c'est ce pouvoir, comme ça, qu'on peut avoir de rentrer dans l'émotionnel des gens ? Et du coup, j'ai travaillé avec un professeur de l'Opéra de Paris. Il a développé ma voix, et puis après, il m'a dit, écoute, je crois que tu peux aller sur ce chemin-là. Et ce qui m'amusait, c'était de pouvoir mélanger mon passé, donc pop, variété, avec ma nouvelle aventure classique.
Oui, puis tu as fait du théâtre, tu as fait les cours Florent, tu as fait plein de choses. Alors tu dis un truc magnifique, j'ai trouvé ça très très beau, c'est-à-dire que quand tu dis « quand je commence à chanter une chanson, ce n'est pas pour essayer d'atteindre une note, c'est pour essayer de ne pas pleurer ». Mais alors ça, c'est une citation qui pourrait ouvrir une de mes émissions. T'as vu que je cite et puis en plus, j'ai quand même cité Baudelaire. Donc, tu vois, je t'envoie des fleurs.
Oui, écoute,
mais...
franchement.
Mais je trouve
ça. Cheville, mais... Non, mais c'est une, ouais. C'est une phrase qui est tellement vraie en ce qui me concerne. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'émotions en moi. J'ai beaucoup de choses à livrer. Je suis quelqu'un à fleur de peau. Je crois que ça s'entend dans mes interprétations, du moins je l'espère. C'est ce que, en tout cas, le public qui me suit me dit, et c'est ce qu'il aime en moi, en fait. C'est-à-dire, peu importe, je ne suis pas dans une démonstration vocale, on n'est pas dans un exercice, on ne fait pas les Jeux Olympiques de la musique, quoi. C'est juste qu'il faut. Ça ne sert à rien d'aller taper une note et puis qu'elle soit vide. Il faut que. Dans la voix, il y a une émotion, il faut qu'on croit ce qu'on raconte, il faut qu'on soit dans la chanson, dans les mots et dans l'émotion. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est pas grave si on fait une fausse note, c'est pas grave si on se trompe. Ce qui est important, c'est de délivrer un message. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu chanter, pour délivrer des messages.
Et puis, on peut parler du jazz et de la fameuse note bleue qui est le petit accident comme ça, subtil,
oui, mais...
qui vient amener toute la grâce, quoi.
Oui, mais vous savez, il y a des voix qui sont pas vraiment justes, mais que j'adore, et je suis pas le seul. Et c'est-à-dire cette petite
qui
note
qui,
bleue.
Qui c'est qui chante faux? Qui c'est qui chante faux que t'aimes bien?
J'ai pas dit faux, hein, j'ai dit bleu. Parce que
oui,
faux,
bleu.
C'est, c'est comme le steak. Non, non, mais c'est-à-dire que c'est faux, c'est ça vient déranger l'oreille. Bleu, pour moi, c'est vraiment parce que c'est quelques commas en dessous ou au-dessus, et c'est pas grave parce que ça crée une espèce de, ça devient presque joli, et c'est ça que j'aime bien. Donc être vraiment dans la technique, dans le, bien sûr que dans le classique, les gens qui font du classique vont hurler en entendant ça, mais c'est pas grave parce que en fait, il faut une certaine liberté dans les répertoires quels qu'ils soient. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans Opéra Rouge, qui m'a révélé au grand public, ou même dans tous mes albums. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il y a des notes, il y a des notes qui sont hautes, tout ça. Mais ce qui est important, je le répète encore une fois, c'est l'émotion qui va se dégager d'une chanson, par les mots, par la musique et par la voix.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Pour retrouver Yvan Cujus et ses invités, rendez-vous bien sûr de 20h à 21h dans le Loft Musique avec des lives inédits. Restez sur Sud Radio, on va revenir dans un instant avec Philippe Rossier et toute l'équipe des Vraies Voix et avec l'invité de la matinale de Patrick Roger et de Cécile de Minibus, l'avocat gilet jaune François Boulot. A tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. Je suis ravie de vous accompagner et de réécouter avec vous des extraits des temps forts de cette semaine. Et on continue d'ailleurs avec l'équipe des Vraies Voix. Mercredi, pendant leur tour de table de l'actualité, Philippe Rossier et ses chroniqueurs Françoise Degois, Philippe David et Philippe Bidger ont débattu sur la dette Covid et sur la faculté des Français à la rembourser. Écoutez.
Tout sera mis en œuvre pour protéger nos entreprises, quoi qu'il en coûte.
L'argent ne fait pas le bonheur, mais on est tout de même bien content d'en avoir.
La crise sanitaire que nous traversons est une forme de parenthèse. Et lorsqu'elle se refermera, la parenthèse du quoi qu'il en coûte se refermera aussi.
Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double.
Le quoi qu'il en coûte est et restera notre ligne tant que la crise sévira dans notre pays.
Bravo. D'ailleurs, j'étais sûr qu'entre gentlemen, les questions d'argent ne se poseraient pas.
Vous avez une idée du pognon qui fout le camp dans les banquets, les balles, la décoration, le mobilier, hein?
Alors on a la réponse hein, du quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, c'est 424 milliards d'euros la dette Covid. Le grand débat avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Philippe David et notre invité, c'est Agnès Verdier-Molinier. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à vous Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Et puis, auteur de ce livre, La France peut-elle tenir encore longtemps, aux éditions Albin Michel. Donc Agnès Verdier-Molinier, 424 milliards d'euros, puis je vous donne ce chiffre, ça représente, on a fait le calcul, 6330 euros par habitant. Qui va payer la facture Agnès Verdier-Molinier?
Bah écoutez, c'est la bonne question que tout le monde se pose et c'est pour ça que j'explique dans mon livre que beaucoup d'épargnants français craignent une augmentation de la fiscalité, une taxe exceptionnelle. Il y a eu énormément de propositions de taxes qui ont été faites ces derniers temps dans le débat public par Louis Gallois ou par d'autres, par Piketty bien sûr. Et le sujet, c'est que la France est déjà le pays qui est le plus taxé de tous les pays développés. Hein. On voit avec le programme de stabilité du gouvernement que même à l'horizon 2027, on sera encore le pays le plus taxé. Donc, il ne faut surtout pas rajouter des impôts, mais il faut faire ce que nous n'avons jamais fait depuis le début, c'est-à-dire faire baisser la dépense publique, taxer la dépense publique. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir. C'est ce que j'explique dans mon livre, en expliquant les mesures qu'il faut prendre. Ce n'est pas compliqué. C'est exactement les mesures qu'ont prises les pays européens qui ont fait le travail d'équilibrer leurs comptes publics, de gérer mieux leur politique publique. C'est réformer les retraites, c'est réformer l'assurance chômage, c'est réformer les aides sociales, les fusionner, les plafonner. C'est donc tout ce travail-là qui est devant nous. Le côté positif, c'est qu'on n'a quasiment rien fait pour l'instant en la matière. Donc, on a des marges de manœuvre énormes, on a des économies potentielles énormes. Et c'est surtout
mais avec tout ce que vous dites, vous n'avez pas l'impression que les Français vont payer une note encore plus salée, Agnès Verdier-Molinier?
Pas du tout, pas du tout, parce que justement, c'est en baissant le poids de notre modèle social, en baissant finalement le coût derrière en impôts et en cotisations pour les entreprises et pour les ménages, qu'on réussira à rendre plus compétitif notre système français et à rendre nos entreprises compétitives. C'est comme ça qu'on réindustrialisera la France, c'est comme ça qu'on arrivera à exporter plus de produits faits en France, c'est comme ça qu'on arrivera à créer des emplois dans notre territoire. Donc là, on a devant nous un travail qui est gigantesque, qui est en même temps enthousiasmant parce que ça n'a pas été fait en France du tout. Et donc, on a vraiment, ce que je disais tout à l'heure, des marges de manœuvre énormes et qui n'abaisseront pas la richesse par habitant. Au contraire, à partir du moment où on rentrera dans cet engrenage qui est positif de réformer de manière structurelle, eh bien, au contraire, nos services publics, ils seront meilleurs, mais ils coûteront moins cher à produire, ils seront plus au service des Français. Notre système de retraite, il sera plus solide, il y aura moins de risques que les jeunes générations aient des pensions de retraite très faibles. Donc, tout ça, c'est très positif pour nos concitoyens, mais il faut leur expliquer, il faut faire de la pédagogie.
Très positif, selon Agnès Verdier-Molinier. Alors, le gouvernement pense plutôt à la croissance qui va rembourser la dette. S'il y a croissance, évidemment, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire.
Je voulais saluer ma camarade, Françoise, que j'aime beaucoup, Agnès. J'adore me disputer avec Agnès Verdier.
Bonjour, Françoise.
Agnès, ça va bien, Agnès. Vous êtes, ce que j'aime, c'est que vous allez être la dernière dinosaure, en fait, à plaider cet ultralibéralisme, parce que vous voyez que...
Ah, j'ai d'autres noms. Hein.
Non, vous voyez quand même ce qui est en train de se passer. Vous avez le président américain, Joe Biden, qui lance une relance incroyable, 3000 milliards, bon, c'est à l'échelle des États-Unis, qui annonce remonter les impôts sur les sociétés. C'est moins que Obama, qui était à 35%, et est à 28%. Les sociétés qui gagnent le plus d'argent, qui a décidé de faire la chasse aux paradis fiscaux, aux GAFA, aux 90 sociétés qui demandent un impôt mondial, que tout le monde s'harmonise, en tout cas au niveau des pays du G20, sur l'impôt. Vous avez l'ONU qui suit, vous avez même... Le FMI, qu'il dit, il faut envisager un impôt sur les sociétés les plus riches. Le FMI. Et vous, Agnès, c'est ça que j'adore, c'est votre constance. Eh bien, vous continuez sur ce projet, en fait, qui n'a absolument pas de sens, qui repose que vous traitez souvent la gauche d'idéologue, mais c'est moi qui vous traite d'idéologue. C'est une idéologie. Il y a la relance, il y a la croissance. Non. C'est complètement fou que ce soit la plus grande nation ultralibéral, les États-Unis, qui nous montrent le chemin avec un Biden dans son discours qui a dit il faut remettre le projet ouvriériste et social au cœur de l'Amérique.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Rendez-vous dès lundi de 17h à 19h avec Philippe Rossi et toute l'équipe des Vraies Voix. On continue avec un extrait de la matinale de mercredi. Pour le petit déjeuner politique, Patrick Roger et Cécile de Minibus recevaient François Boulot, avocat et porte-parole des Gilets jaunes à Rouen, venu présenter son livre « Reprendre le pouvoir », l'occasion de donner son avis sur l'impact du mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui face à la crise sanitaire.
Le meilleur de Sud Radio.
Oui, on vous avait vu donc beaucoup lors du mouvement des Gilets jaunes sur cette question de la démocratie participative, les citoyens, donc c'est un peu ça derrière « Reprendre le pouvoir ». Mais sauf que là, aujourd'hui, vous abordez davantage peut-être les questions économiques. D'un mot peut-être aussi sur le mouvement des Gilets jaunes et ce qu'il est devenu et ce qu'il pourrait renaître ou pas, François Boulot.
Alors, deux choses. Sur les gilets jaunes, bon, je crois que tout le monde a vu qu'il a été mis KO par le pouvoir, par une répression policière et judiciaire qui a été extrêmement puissante. On a éborgné, mutilé des gens, etc. Si bien qu'on a créé une peur tenace de manifester aujourd'hui dans notre pays. Est-ce que la liberté de manifester existe encore quand on voit ce qui se passe, ou à chaque fois, ça se passe très mal, en particulier à Paris? Maintenant, si
bon,
les gens...
Il y a eu en plus le Covid et des conditions sanitaires,
bien sûr.
Et puis, il y avait eu des manifestations où ça avait dégénéré, quoi, aussi.
Voilà, hein, mais c'est exactement ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, comme le pouvoir n'a pas répondu aux revendications, la colère est toujours là. C'est bien que si les gens ne portent plus le gilet jaune sur le dos, le gilet jaune est toujours dans le cœur, et la colère, elle est toujours dans les esprits. Et c'est, le livre essaye de répondre à ça. Essaye de dire, écoutez, notamment aux classes dominantes, aux classes moyennes supérieures, qui ne veulent pas changer de logiciel politique et économique, dire, attendez, ça va mal finir, cette histoire-là. Et donc, j'ai essayé, effectivement, de déconstruire le néolibéralisme, mais j'entends beaucoup parler de ce mot de la part des intellectuels, où on parle en fait des doctrines, des concepts, et c'est difficilement accessible pour les gens. Donc j'ai essayé, moi, de partir de... c'est quoi le néolibéralisme dans la tête des gens aujourd'hui, en fait? Comment il se manifeste? Comment il se caractérise?
Oui, vous le découpez en cinq parties. Hein.
Exactement. En fait, ouais. Je suis parti des cinq dogmes, en fait, économiques, qu'on entend tout le temps. Dans les bistrots, dans la rue, avec mon entourage, des étrangers. Bref, dès que je débat politique, j'identifie, en gros, les cinq principes qui font que... qui sont des idées reçues et que j'ai essayé de déconstruire.
Alors, parlez-nous, justement, de ces cinq principes. Alors, derrière, on pourra en débattre.
Voilà. Alors, les cinq principes, ce sont les suivants. C'est la croissance. C'est-à-dire qu'il n'y a que la croissance qui peut augmenter le pouvoir d'achat des citoyens. Premier principe. Deuxième, c'est la concurrence. L'État, c'est mal, il ne sait pas gérer. L'État, il n'y a que le secteur privé qui est performant, qui est compétitif. Troisième principe, c'est l'austérité. C'est-à-dire qu'il y a la dette. Mon Dieu, l'État est en faillite. Les générations futures, il faut réduire la dépense publique. Quatrième, c'est l'attractivité. C'est-à-dire qu'on nous explique qu'on ne peut pas augmenter les impôts, surtout pour les plus riches de la société, parce que sinon, ils vont partir, ils vont s'évader fiscalement, et donc l'économie va s'effondrer. Puis le cinquième principe, c'est la flexibilité. C'est l'idée qu'il faut libérer le marché du travail, parce que comprenez que le coût du travail est trop cher en France, hein, et que les chômeurs, ils sont trop feignants pour vouloir travailler. Donc il faut flexibiliser pour libérer les énergies. Bon. Quand vous croyez à ces cinq principes, ou même, je dirais, à deux ou trois seulement, ça y est, votre pensée, elle est bloquée. Vous ne pouvez pas penser une alternative politique. Sauf que, et c'est le constat dont je pars dans le livre, la situation, elle est très mauvaise. Avant même la crise du Covid, on était déjà dans quelque chose que beaucoup de gens ignorent. La baisse du niveau de vie de la société française est enclenchée. Depuis la crise de 2008, sur les 10 années qui ont suivi la crise de 2008, c'est 10% des Français qui ont connu une baisse de leur niveau de vie. Et depuis 2018, c'est 30% des Français, au moins, qui sont atteints par la baisse du niveau de vie. Je dis au moins parce que là, je vise deux études de l'INSEE et j'explique que ces études peut-être sous-estiment l'ampleur du phénomène parce que, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, il y a des approches et des calculs de l'INSEE qui sous-estiment l'inflation. Et donc forcément, si vous prenez un coût de la vie qui est
moins élevé... Oui, parce que tout n'est pas pris en compte dans les calculs.
Tout n'est pas pris en compte, le logement, il y a des calculs, un effet qualité notamment qui est appliqué. Bref, tout ça pour dire que l'ampleur du phénomène est peut-être sous-estimée et que par conséquent, si vous voulez, vous pouvez pas avoir une société qui connaît une baisse du niveau de vie pour donc au moins 30% de la société française, avec dans le même temps une explosion des revenus, et ça on le sait, il y a des rapports donc, officiels, y compris pris sous l'égide de France Stratégie, c'est une agence gouvernementale, qui nous explique que c'est 1 ou 0,1% des Français les plus riches explosent leurs revenus. Comment? Par les plus-values
mobilières. Alors ça a diminué donc aujourd'hui avec justement les quelques réformes. Ils ne sont plus 1, et quelques, mais la richesse elle est détenue par
c'est
0,1%
de... même. En réalité, c'est même 0,1% les 0,1% qui voient leurs revenus exploser. Comment? Plus-value mobilière, c'est-à-dire les revenus de la spéculation financière, et deuxièmement la distribution de dividendes, où on est à 57 milliards de distribution de dividendes en 2018.
Ça veut dire que 99% des Français doivent reprendre le pouvoir, c'est ça?
Exactement. C'est ma thèse, c'est de dire, écoutez, il faut, pour s'émanciper politiquement, partons de l'économie. Moi, je pense que tous les citoyens devraient avoir des bases en économie. C'est le nerf de la guerre. On voit bien que toute la politique, tout le système fonctionne autour de l'économie.
Mais ça, vous l'avez senti sur le terrain avec les gilets jaunes, justement, cette méconnaissance de l'économie?
Oui, je pense que malheureusement, on a un débat public qui est totalement atrophié, qui parle très peu des questions économiques. Quand il en parle, on cesse de nous rabâcher des slogans. Hein, donc le coût du travail est trop élevé en France, il faut flexibiliser le marché du travail, il y a trop de rigueur, de lourdeur administrative et blablabla. Bon, ça, c'est totalement déconnecté de la réalité.
Ah oui, mais ce sont des thèses économiques qui sont quand même fortement développées, qui sont imposées sur la planète entière, quoi.
Oui.
Ce que vous dites, la Chine qui partait de très loin, elle s'est développée aujourd'hui donc elle est beaucoup plus puissante que nous, parce qu'elle a développé, elle s'est appuyée sur les 5 principes que vous venez de développer là, tout à l'heure.
Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que...
Ce que disent beaucoup d'économistes.
Bien sûr, mais c'est parce qu'on n'entend qu'eux, en fait. Ouais. On n'entend que les économistes qui défendent ces dogmes-là. Et le problème, notamment, il y a beaucoup d'économistes, notamment, je pense aux économistes atterrés, avec Henri Sterdignac, Christophe Rameau, mais vous avez des gens aussi comme Frédéric Lordon, des intellectuels comme Emmanuel Todd, qui défendent des thèses économiques tout à fait différentes. Et notamment, en fait, le point de clivage, parce que finalement, la conclusion sur mon analyse économique, c'est qu'en fait, ce qui fait la bascule, c'est la question du libre-échange ou du protectionnisme. Si vous vous mettez dans le libre-échange tel qu'on l'a fait en France, avec notamment les traités européens et le marché unique, qui dérégulent totalement les échanges commerciaux, alors, de fait, vous vous placez en concurrence avec tous les pays du monde, et en tout cas, au sein du marché unique, avec, par exemple, la Pologne. Bon, quand la Pologne a un salaire minimum à 500 euros et que nous, il est à 1500 euros, il est évident que le propriétaire d'une entreprise, l'actionnaire, il va aller faire produire s'il peut en Pologne.
Vous voulez quoi, qu'on ferme les frontières ?
Non, le but, ce n'est pas de fermer les frontières.
En fait,
ce que je veux, c'est qu'on puisse mener une politique économique. Je veux dire, se livrer au libre-échange, ce n'est pas une politique. On dérégule et en fait, finalement, le dirigeant politique ne fait plus rien. Bon, ça, c'est facile à faire. Moi, ce que je veux, c'est que la politique, ça redevienne difficile pour le politique. Pas pour le plaisir, parce qu'on n'a pas le choix. Comment ça devient difficile ? C'est appliquer une politique protectionniste.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Patrick Roger et Cécile de Minibus et leurs invités, rendez-vous lundi de 7h à 10h dans le Grand Matin Sud Radio. Ne bougez surtout pas, on revient dans quelques minutes avec André Bercoff et son invité, le fondateur du Puy du Fou, Philippe Devilliers. À tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. C'est un plaisir de vous accompagner chaque week-end. Avant de retrouver André Bercoff dans tous ses états et son invité Philippe Devilliers, on va s'écouter le dernier titre d'une chanteuse dont on parle beaucoup en ce moment, c'est Oshi, l'artiste au double disque de platine qui a été attaqué sur son physique par Fabien Lecoeuvre, parle ici d'amour et d'espoir et de projection dans le futur. Voici et même après, je t'aimerai sur Sud Radio.
Tu sais, la vie ne vaut rien. Ne sont pas dans les miens. Oh, j'ai du mal à faire le lien. Je deviens pâle sans tes mains. Oh, j'aimerais tout donner pour toi. Je te donne mon corps et puis ma voix. Oh, je pourrais tout voler, je crois. Je t'offre mon art et puis joie. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison. Je t'aime à rendre compte. Je t'aime à ma façon. Tu pourrais être mon grand chagrin. À chaque plaie, j'aurais le médecin. Je t'offrirais mes deux reins. Oh, je pourrais tout brûler pour toi. Pour qu'enfin il ne reste que moi. Oh, je pourrais même casser. De toute façon, je ne crois qu'en toi. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison. Je t'aime à rendre compte. Je t'aime. Et même après, je t'aimerai. Et même après.
Et même après, je t'aimerai dans le meilleur de Sud Radio. Très beau titre signé Oshi qui annonce une réédition complète de son précédent album Soleil le Vent, sorti en juin dernier. On poursuit maintenant avec André Bercoff dans tous ses états. L'animateur recevait mardi le fondateur du Puy du Fou, Philippe de Villiers, venu présenter son livre Le jour d'après, ce que je ne savais pas et vous non plus. Un livre qui dresse un constat alarmant sur la France post-Covid. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Alors vous y allez et comme d'habitude, vous n'y allez pas de main morte, Philippe de Villiers, avec ce ni après. Alors, il y a évidemment vos têtes de Turc, les grands. Alors, on va parler Davos, la mondialisation, Klaus Schwab, et aussi un certain Emmanuel Macron. Alors là, sur lequel il y a, je dois dire, un formidable dîner que vous racontez en fin de livre, qui n'est pas piqué des hannetons. Mais sur le fond, le plus intéressant, c'est que vous dites, vous dressez un constat quand même très 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 fort, et qu'on pourrait vous reprocher en disant « mais vous êtes un décliniste, Philippe de Villiers, voilà, on est en train de changer de monde, vous parlez du Covid, de ce qui a changé le Covid, et surtout, vous parlez de ce qui a préparé le Covid, et dans un certain nombre, je dirais, de clubs, de rassemblements d'oligarques, où on préparait, où on mimait déjà la pandémie, où on faisait des répétitions générales, et vous en parlez, alors là, vous allez être traité de complotiste, mais vous défendez très bien votre cause, parce que vous parlez aussi des choses terribles, la cancel culture, cette université américaine Evergreen dont on va parler. Et en fait, je voudrais commencer par ça, c'est qu'au fond, vous parlez des quatre piliers, et très important, autorité, sécurité, identité, souveraineté. Et vous dites, ces quatre piliers sont vraiment, je ne dis pas en miettes, mais ils sont très ébranlés. Philippe, le pilier.
Oui, d'abord, merci de me recevoir, André, parce que je, vous savez l'admiration que j'ai pour vous depuis très longtemps et la sympathie aussi. Et vous êtes un esprit libre et c'est un jaillissement d'eau fraîche
merci.
À chaque fois que vous parlez. Voilà. Donc, je suis très content que vous ayez apprécié mon livre. Je vais commencer par évoquer une conversation avec Emmanuel Macron.
Oui.
La première, après son élection. Là, il me dit... que doit faire pour vous le prochain président ? Et je réfléchis et je pèse mes mots et je lui réponds ceci. Je m'en souviens mot à mot. Le prochain président...
Après son élection. D'accord.
Le prochain président sera jugé non pas sur ce qu'il aura changé, mais sur ce qu'il aura sauvé. Et il me dit sauver quoi ? Je dis les murs porteurs dont vous venez de parler. Or, 5 ans après, la vérité est cruelle. Les murs porteurs se sont effondrés, enfin ce qu'il en restait. Mmh. Et il s'est passé 2 choses que les Français ont sous les yeux et qu'ils ne voient pas encore. D'abord, la déchirure des tissus conjonctifs de la France industrieuse. Mmh. La SFIO en rêvait, Macron l'a fait. Un pays... La start-up nation est en EHPAD, sous perfusion. Ouais. Et deuxième chose, il a laissé se dresser un mur invisible entre 2 sociétés, la société française de nos civilités et une contre-société invasive, agressive, vindicative et qui veut nous détruire. Voilà le bilan. Et donc... Alors certains diront, ah oui, mais Philippe de Villiers était copain avec Macron, ça, bon, Macron est venu au Puy du Fou,
oui,
c'était une amitié dans la vérité, mais je lui ai toujours dit ceci, à la première minute de notre première rencontre à la Rotonde, je lui ai dit, vous savez, monsieur Macron, la France connaît des problèmes graves qui touchent à sa survie. La question de la souveraineté, la question de la sécurité, la question de l'identité. Et donc, si celui qui sera le futur président ne met pas en œuvre une politique de recivilisation de la France mourra. Il m'a dit, moi je me sens d'attaque pour ça. Et il venait d'aller à comment, la cérémonie de Jeanne d'Arc.
Oui, c'est ça, à Orléans.
Donc, il a trompé son monde, et là, je me suis dit, bon, ben, peut-être qu'il comprend le régalien, mm-hmm. et qu'il va habiter le corps du roi. En fait, il n'a rien habité du tout. Et là, aujourd'hui, c'est la catastrophe, puisque le Covid, on s'empêtre, quoi. On voit bien, on s'empêtre. Un jour, il a dit à ses amis, à la Maison de la Chimie, il a dit à son gouvernement et à ses députés, on dit que vous êtes des amateurs. Eh bien, demeurez-le le plus longtemps possible. Ah ouais. Oui, nous sommes des amateurs.
Ouais. En fait, nous en sommes fiers.
Un aveu merveilleux.
Oui, alors...
On est gouverné par une bande d'amateurs, mais c'est inouï.
Alors justement, Philippe de Villiers, pour remonter, vous le dites vous-même dans votre livre, mais tout ça ne date pas de Macron, pas du tout pour diminuer ses manques, etc. Et au fond, cette espèce de, et vous en avez parlé dans vos livres précédents, mais cette espèce de décomposition française, sans dire on ne va pas refaire l'historique, mais quand même, on a l'impression qu'à droite comme à gauche, si ça a encore du sens, tous les gouvernements ont participé à cette espèce de poussière sous le tapis, à cette espèce de relais de la patate chaude, avec beaucoup de ferveur.
Ben, c'est les murs porteurs.
C'est ça.
Si on prend l'autorité, par exemple, regardez depuis Giscard, donc on est passé de l'autorité paternelle à l'autorité parentale. Après, on a expliqué, il y a les enseignants, les enseignés, mai 68. On a expliqué, l'autorité spirituelle est devenue la collégialité, c'est-à-dire la décision à laquelle on se rend de ne pas décider ensemble, c'est qu'on se savait incapable de décider tout seul. L'autorité magistrale, elle a disparu. L'autorité souveraine,
oui,
l'autorité du souverain, c'est Pékin de prestige, comme on dit dans l'armée. Bon. La sécurité n'est plus assurée, et les milices se développent, les milices privées, notamment de la bourgeoisie française, hein, il faut bien se protéger. Et petit à petit, il y a 200 territoires qui ne sont plus français.
Et tant 200 territoires,
oui, oui. Entre 200 et 300, selon les chiffres puisés à la meilleure source. Et puis, l'identité, elle, est en train de se dissoudre. Jamais je n'aurais pensé, en venant ici à Sud Radio, il y a encore 3 ans, avec vous, André, qu'on serait amené à parler de la lutte des races. Ils en sont là. C'est-à-dire que sous la férule de Assa Traoré qui fait la une du Time, on en est à la lutte des races.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Pour retrouver André Bercoff dans tous ses états, rendez-vous tous les jours de 12h à 14h. Je propose qu'on réécoute maintenant un extrait du 10h midi de lundi de Christine Bouillot. Pour le traditionnel coup de cœur, coup de gueule, l'animatrice et ses débatteurs sont revenus sur cette femme qui a décidé d'offrir une retraite aux animaux de laboratoire. Écoutez.
Vos coups de cœur et vos coups de gueule de l'actualité. Honneur à vous, mesdames, Sophie de Menton. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant ?
C'est un coup de cœur. Figurez-vous qu'il y a... d'ailleurs, elle a un nom merveilleux. Elle s'appelle Marie-Françoise Lheureux. Et elle a décidé d'offrir une retraite aux animaux de laboratoire. Moi... Ça me va droit au cœur. Et j'ai un beagle. Et figurez-vous que les beagles, ce sont les chiens préférés des laboratoires. Ils sont tellement gentils qu'on peut leur faire n'importe quoi. Ils ne mordent jamais. Oui. Et donc, c'est vrai qu'on teste nos vaccins, on teste tout ce qui est nécessaire à notre santé auprès des chiens, des chats, des chevaux, des lapins, des rongeurs, des primates et bientôt les crabes. Et là, cette femme a décidé, alors après, bon, quand ils ont bien servi, c'est déjà pagué comme vie, on les euthanasie. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Au moment où, en plus, on est enfin en train de reconnaître un petit peu que l'animal n'est pas un meuble, elle a lancé une maison de retraite, enfin un parc, jardin, etc. Et elle recueille à 35 personnes déjà, 200 lieux d'accueil. Voilà, tous ces animaux qui sortent des laboratoires maintenant, 150 labos d'ailleurs ont sorti aujourd'hui 4500 animaux. Et là, je trouve ça formidable, ça fait le bonheur des animaux. Donc vous pouvez regarder, le Graal, c'est basé à Charenton et ça s'appelle le Graal, et pour cause.
Bien, quelqu'un...
C'est un coup de cœur, il faut bien ça quand même.
Oui, oui, oui. Surtout que les animaux de laboratoire, ils sont passés un peu sous les radars.
Oui, complètement, là, on fait ce qu'on veut. Heureusement, il y a quand même L'Oréal, etc. Maintenant, il n'y a plus de tests des produits de beauté, on ne le fait plus en principe sur les animaux.
Oui, oui, oui.
Enfin, pardon, juste une parenthèse, parce que ça, c'est gay. Depuis qu'il y a la pandémie, il y a je ne sais combien d'adoptions de chiens. Et les gens ont besoin de tendresse, de toucher.
Ça
et
permet
ils
de
adoptent
sortir
les
sans attestation aussi.
Ouais. Pardon ?
Ça permet de se promener sans attestation aussi.
Oui, il n'y a plus besoin alors.
Oui, il n'y a plus besoin d'attestation. Ouais. Ouais, oui, si, hein, en dehors du couvre-feu.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
Voilà. Ça peut, ça, ceci peut peut-être expliquer cela.
Vous êtes plus optimiste que moi. Bon.
C'est ma vision des choses. On continue, Anne-Laure.
Un coup de cœur. Moi, c'est également un coup de cœur. Ah. Un coup de cœur pour nos agriculteurs et plus particulièrement en ce moment après les conditions météorologiques qu'ils ont connues notamment la semaine dernière et qui ne sont pas finies hein, parce que moi je suis dans un département, le Maine-et-Loire, où on a beaucoup ouais. de maraîchers, on a aussi des viticulteurs. Voilà, on a beaucoup d'agriculteurs qui travaillent avec la terre. Et c'est vraiment un coup de cœur parce que j'ai passé, il y a une dizaine de jours maintenant, une semaine entière dans une entreprise maraîchère du Saumurois, après avoir déposé une proposition de résolution à l'Assemblée pour que les députés, notamment au début de leur mandat, puissent effectuer un stage en entreprise. Parce qu'on sait très bien qu'en début de législature, et c'est assez dramatique d'ailleurs, après à peine l'élection, passée, tout de suite les députés, les sénateurs doivent légiférer. Or, un parlementaire ne connaît pas tous les domaines et pas forcément non plus tous les domaines économiques. Et donc, moi, dans ma proposition de résolution, j'ai proposé qu'on ait un temps consacré vraiment dans l'agenda parlementaire pour que les députés puissent se rendre dans les entreprises. Et donc, puisque moi, je suis aussi au début de mon mandat, j'ai décidé de convertir ma proposition législative sur le terrain. Et donc, j'ai passé une semaine avec eux au quotidien, avec les salariés, les saisonniers, voilà, notamment dans une entreprise qui fait nos asperges, qui fait nos
radis. C'est un peu le vie ma vie, c'est ça que vous dites ?
Oui, bah, quelque part, oui, c'est vrai qu'ils ont aussi vécu la mienne parce que la semaine dernière,
d'accord.
On a eu des nouvelles annonces.
Ma vie, mais avec mes impôts.
Mais dis, elle
voilà, c'est une manière de concrétiser une proposition parlementaire parce que quand on est député, on doit véritablement, quand on met en œuvre des mesures, toucher au plus près des réalités du terrain. Et le fait d'avoir suivi une semaine l'activité des chefs d'entreprise, des saisonniers, des salariés, de percevoir véritablement les points de problématique qui peuvent au quotidien leur empêcher de promouvoir leur activité, je crois que c'était vraiment une initiative très intéressante et en tout cas moi cette semaine m'a été très profitable. Voilà, j'ai
écoutez,
partagé
c'est très intéressant. Je vous suggère de venir dans une PME, de faire la compta, de
les
vérifier
factures,
les contrôles,
les feuilles de paye.
Exactement, c'était une PME, exactement une PME du Saumurois.
Avec oui, mais vraiment même la PME basique, sans secteur particulier surtout, d'activité, ce serait
c'est
bien.
Le stage.
Mais bravo.
On peut faire toutes nos entreprises.
Et puis j'abonde dans le sens de Sophie. Je propose au-delà d'avoir un stage qui est un stage quand même mieux rémunéré que celui qu'on offre aux étudiants. Je propose quand on dit qu'on vit la vie ce qu'on appelle les administrés, les citoyens, moi je propose de vivre ce que c'est de passer 6 mois comme un restaurateur ou un cafetier aujourd'hui sans revenu. Je propose de se payer ce que paye un agriculteur aujourd'hui pour voir comment ils vivent et non pas d'aller faire des stages. Moi je le dis sans vraiment, c'est pas méchant parce que je vois bien qu'il y a de la bonne volonté derrière l'initiative d'Anne Lorblin. Ce qui me désespère toujours un petit peu avec les politiques, c'est cette espèce de croyance selon laquelle ils connaîtraient mieux le terrain en allant quelques jours s'immerger dans la vie des vrais gens, etc.
Ben, c'est pas mal aussi.
La seule façon
c'est mieux que rien, mais c'est vrai que c'est complètement éloigné de la réalité. Moi, j'avais proposé ça.
Je vais finir là-dessus, mais la seule façon en réalité d'avoir des politiques, et là-dessus, c'est un bon point pour le coup que moi je décerne vraiment à Macron, parce qu'il avait vraiment fait un énorme effort. On l'avait moqué à l'époque en disant qu'il avait fait un casting, mais en réalité, Macron avait fait quelque chose d'assez intéressant. Alors évidemment, il avait choisi des députés qui étaient plutôt à sa main, entre guillemets, c'est ce qu'il s'était choisi de façon assez opaque dans le système de la République en marche, mais il avait vraiment voulu faire cet effort d'aller chercher des gens qui n'avaient pas des carrières politiques, qui n'étaient pas des politiciens professionnels.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Valérie Expert et ses invités, rendez-vous dès lundi dans le 10h midi. Allez, on va revenir dans quelques minutes avec la chronique de Cédric Cizère qui a répondu comme d'habitude en humour à vos messages laissés sur le répondeur de Sud Radio. Restez avec nous.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdine.
De retour pour la dernière partie du meilleur de Sud Radio. Je vous propose maintenant qu'on écoute un titre du célèbre compositeur et musicien Michael Sambello. Après des collaborations avec Michael Jackson, Diana Ross, Barbara Streisand et Donna Summer, on lui doit un tube planétaire inclus dans la bande originale du film Flashdance et vendu à plus de 348 000 exemplaires en France. Voici Maniac sur Sud Radio. Sur Sud Radio, succès international inclus dans la bande originale du film Flashdance. Comme tous les week-ends, on va terminer maintenant en humour avec la chronique de Cédric Cizère. Mardi, il a répondu à un message de Philippe Manœuvre laissé sur le répondeur de Sud Radio. Et il en a profité pour vous donner le classement officiel des chansons qui font baisser la pression artérielle. Écoutez.
Il aurait pu avoir une touffe de cheveux, il a choisi de les donner, de les offrir.
Exactement,
pour
une association.
Pourquoi. Exactement, et il est avec nous, Cédric Cizère. Bon, on n'a pas le nom de l'association, mais vivement
non.
qu'elle se manifeste.
Mais ne vous inquiétez pas, est-ce que ça s'est bien passé avec mon ex Barbara Pompilop ou pas? Ça s'est bien passé ou pas avec elle?
Pompilop,
c'est une chanson des années 90.
Ah oui.
Don't you know Pompilop? Écoutez, j'espère que vous chanterez ça la prochaine fois ou que je serai là, que je serai invité. Écoutez, Cécile, je suis très étonné de ne pas vous voir avec votre maillot du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui se passe?
Ben quoi?
Mais pourquoi vous l'avez pas?
Ah mince, il a brûlé dans mon appart.
Non, mais j'aurais bien prêté le mien, mais c'est vrai qu'il a brûlé parce que j'ai utilisé le maillot du PSG pour allumer mon barbecue, c'était ce week-end.
Ouais.
Et c'était vachement bien. J'avais plus de télé 7 jours, malheureusement. Bon, j'espère que vous êtes prêts pour ce soir. Bah, on parlera demain, on fera un débrief demain matin, évidemment. On ne parle pas avant parce que sinon, ça sert à rien.
Ah non, c'est pas possible.
Alors, vous savez que je suis un démon et d'ailleurs, je suis pas sûr que vous connaissiez ceci. Qui ça? Qui ça? Je déteste les gens qui font ça. Démon de minuit. Eh oui, Patrick, m'entraîne jusqu'à l'insomnie. Qui ça?
Patrick, c'est pas la même chanson, vous avez remarqué?
Tu peux mettre ça un tout petit peu, Richard? Non, mais au moins, Patrick, en boîte de nuit à la poutre apparente, il était pas embêté parce qu'il disait parce que normalement, on dit n'importe quoi et dès que la musique s'arrête, on passe pour des
couilles. Ouais,
c'est vrai.
C'est sa technique. Hein.
Bien sûr. Ah, ça, vous vous souvenez, en fait, de ce moment où on coupe la musique et alors on coupe le son et alors là.
Et vous avez pas remarqué, d'ailleurs, que c'est au moment où il y a un blanc que vous dites une connerie.
Mais bien sûr.
Et très fort, généralement.
Et ta mère. Tout le monde a entendu.
Tout le monde a envoyé les paroles. Elle est pas là.
Mais du coup, vous avez donné une bonne technique, Patrick. Et le c'est vrai que j'avais pas pensé à ça.
Ouais.
Il va falloir. Alors, est-ce que vous avez. Remets un tout petit coup de démon de minuit, Richard.
Ouais. Allez.
Un tout petit coup.
On démarre.
Voilà. Est-ce que vous sentez votre pression artérielle baisser? Est-ce que vous sentez votre rythme cardiaque qui se ralentit? Non.
Pas spécialement. Non.
Alors, c'est bizarre.
C'est normal.
Parce que selon la science, 96% des personnes qui écoutent une chanson des années 80 voient leur pression artérielle baisser.
Ah bon?
Oui, et 36% ressentent en sus une baisse de leur rythme cardiaque. En sus.
D'accord.
Je savais pas. Ça veut dire que si tu écoutes Nostalgie toute la journée, tu vivras jusqu'à 130 ans.
Ah oui, d'accord.
Ah bah oui, mais ça baisse. Moi, j'ai le problème inverse. Tous les matins, pendant 10 minutes, j'ai le cœur qui bat à 130 à l'heure.
Ah bon, pourquoi?
Parce que je vous vois, Cécile.
Ah, ouais, c'est ça.
Tellement facile.
Non, mais je vous vois. Hein. Dès que vous rentrez dans le studio, vous tremblez.
Je tremble.
Vous n'êtes plus le
et pour me calmer, je vous regarde et ça va beaucoup mieux.
Oui, ça va, parce que sur l'affiche, il y a marqué Patrick.
Et oui, bah, bien sûr, mais c'est pour vous surprendre, Cécile.
Il mange à tous les râteliers.
Mais c'est pour vous surprendre, bien sûr.
C'est-à-dire, il avait mis Patrick.
Parce que c'est vous qui le. Voilà,
qui est le cœur qui bat la chamade.
Voilà, c'est pour vous.
Donc,
en fait.
Donc, alors là, révélation.
Secrètement.
Mais vous êtes déjà avec Philippe Bilger, j'ai dû changer. Je suis désolé. J'ai changé. Bon, alors voilà, le problème, en deuxième position des chansons qui font baisser.
Mais vous l'aimez bien aussi.
Ah, mais j'espère aussi.
Allez, on l'embrasse, Philippe. On l'aime beaucoup.
Il nous écoute, bien sûr. Alors, vous savez qu'en deuxième position des chansons qui font baisser la pression artérielle à 89%, on trouve ceci.
Oh là là, attendez.
Alors, métal.
C'est marrant parce qu'on n'entend pas Patrick chanter les paroles.
Ah bon, ça ressemble un peu.
Il y a plus personne.
C'est plus pareil. C'est cornes, bien sûr. Alors, le métal calme votre cœur. Maintenant, vous saurez 89% de pression artérielle qui baisse grâce au métal. Maintenant, vous saurez que si vous faites une crise cardiaque, pas la peine d'appeler les pompiers. Vous mettez.
Ça
baisse, non?
Oui, c'est.
On a perdu Patrick.
Là, c'est...
Bah, on n'attend pas Patrick. Bah, on y va.
Bon, ça va beaucoup mieux. Un des plus grands spécialistes musicaux a voulu réagir à ce sujet incroyable. C'est vraiment des vrais chiffres que je vous donne ce matin. C'est une vraie étude. Vous allez voir de quel journal ça sort.
Salut les bikers, c'est Philippe Créneau, le spécialiste pop-rock, fan des Stones, de Queen et des To Be Free.
Ah.
Le heavy metal diminue le rythme cardiaque, mais certains font bien plus fort.
Ah bon ?
J'ai fait écouter du Jul à ma mère de 83 ans.
Ouais.
Quand elle a entendu les paroles, son cœur n'a pas ralenti, il s'est arrêté. Terminado quoi ! Elle a résisté à un an de Covid, mais pas à 10 secondes de Jul. À vous à l'héritage. Merci Jul.
Ah bah l'héritage, c'est vrai.
Aucune personne n'a été blessée, hein, tout va bien.
Bah là, c'est juste le cœur qui s'arrête complètement. Mais il a pas tort, Philippe Créneau, parce que moi, quand mes amis mettent à fond du Booba dans une soirée, je leur fais un AVC.
Ah oui.
Vous savez ce que c'est un AVC?
Non.
C'est arrêtez vos conneries. Tout de suite. Je leur dis arrêtez-moi ça. C'est pas possible. Alors, c'est le New York Post qui présente cette étude. C'est très sérieux comme journal. C'est le New York Post.
Je savais même pas que vous connaissiez.
Je connais, vous savez, je travaille. C'est pas le Montigny, le Bretonneux Post. C'est le New York Post. Et selon le chercheur, les tubes des années 80 suscitent de la nostalgie et leur sonorité joyeuse favorise la sécrétion des hormones du bonheur. Et c'est vrai que les années 80, c'était le bonheur. Souvenez-vous, Patrick, écoutez cette chanson de 1984, par exemple. Ça sécrète pas le bonheur chez vous? Non, c'est la dépression plutôt.
Je crois
plutôt.
Qu'il s'est endormi.
Mais je pense qu'il...
Non, mais c'est... si, c'est du bonheur, mais je plonge là.
Ah, bah oui,
plongez,
je plonge. Vous sentez les hormones sécrétées?
Ouais, c'est vrai.
Voilà, vous êtes en train de repenser.
C'est mieux que dans que votre morceau.
Que
là,
le métal.
Métal.
Ah, mais voilà.
J'aime bien le morceau.
Mais il faudrait une voix comme ça. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio, détendez-vous, on s'occupe de tout.
Ah, ça y est,
jusqu'à l'Isère.
Et j'ai le cœur qui bat encore plus fort. Les chansons nous ramènent immédiatement à un moment de notre vie. Vous savez qu'on se rappelle toujours d'une période de notre vie en fonction des chansons. Par exemple, moi, quand j'écoute ça.
Tous ces jours. Ce temps qui n'appartenait qu'à nous.
Eh ben, ça me rappelle quand je me suis fait larguer par Elodie.
Entre autres.
Quand j'écoute ça.
Dans la vallée, là-haut, de
ça, c'est Enrico Macias qui reprenait cette chanson. C'est pas la même.
Très bonne vanne, ça.
Ben, merci beaucoup, c'est pour vous, je vous l'offre.
Et ça, ça vous rappelle
alors,
quoi?
Quand j'écoute ça me rappelle quand je me suis fait larguer par Aurore.
Ah oui, d'accord.
Et quand j'écoute ça...
Aurore.
Karaoké sur Sud Radio.
Ben oui. Et ben ça, ça me rappelle quand je me suis fait larguer par Jean-Marc. Voilà. Jean-Marc qui m'a quitté un matin, je sais pas pourquoi.
On l'embrasse, s'il nous écoute.
On l'embrasse. Donc. Et ouais. Oui, c'est très musical ce matin, mais voilà, ce sont des vrais chiffres, ça fait du bien. Alors, vous en avez parlé, mais tout le monde a été choqué par les propos du tennisman Benoît Paire. Ouais. Dimanche soir, après sa défaite au premier tour du tournoi.
Vous l'avez entendu, on l'a diffusé en diffusé, en large hier.
Ouais. Bien sûr, mais moi j'adore ça et j'étais obligé d'en parler. On m'a dit, Cédric, parle-en, c'est pas possible. Alors j'en parle. Est-ce que vous connaissez le surnom de Benoît Paire?
Non.
François Bayrou.
Pourquoi?
Parce que lui aussi, il se fait toujours éliminer au premier tour. Ben oui, bon, bien sûr que oui. Alors, il a déclaré...
La chatte qui va. Alors ça, c'était l'année dernière.
Je vous conseille, si vous vous ennuyez, si vous êtes en dépression, regardez la compilation des insultes, des énervements, des cassages de raquettes de Benoît Paire sur YouTube. C'est extraordinaire. Ouais, regardez-moi
ça. Soirée, hein.
Ah, c'est magnifique. Franchement, il a déclaré, j'en ai rien à branler de ce mag, j'ai pris 12 000 balles et je rentre chez moi.
Ouais, on peut le réécouter si vous voulez. On va la voir, on va la rediffuser.
Ça me fait plaisir. Alors, Benoît Paire, c'est un passionné de balles, mais pas les balles de tennis, les balles en billets de 500 euros. C'est pas la même chose. Après, on tombe sur lui alors que le champion de France de ping-pong, Michael Rakeket, je sais pas si vous le connaissez.
Non,
c'est le champion de France de ping-pong. Il a déclaré à peu près la même chose ce week-end.
Rakeket.
Oui, Rakeket. Et personne n'a repris l'info. En même temps, il a dit « J'en ai rien à foutre du tournoi de Sucy-en-Brie. Je prends mes 12 euros et je rentre chez moi.
Oui. »
Non, tout le monde s'en foutait. C'est ça qui est étonnant. Et un auditeur a voulu témoigner pour soutenir Benoît Paire.
Bonjour Cédric, je suis Antoine. J'habite en plein cœur de la montagne, à Tours. Alors tout le monde tombe sur Benoît Paire et ça m'énerve.
Bah oui.
Parce que Benoît Paire, c'est le prof de tennis de mon fiston. Et grâce à lui, Baptiste s'est amélioré dans le seul geste technique qu'il n'arrivait pas à maîtriser. Jeter sa raquette sur l'arbitre.
Ah oui, ce qu'il ne faut pas faire.
C'est très difficile à maîtriser ça. Hein. Il paraît que l'entraîneur de Benoît Paire, il est obligé pendant les entraînements de porter une armure du GIGN, pour être sûr.
Ou de l'attacher à son poignet.
Exactement, il fait très attention. Benoît Paire, c'est le seul joueur qui utilise plus de raquettes que de balles. Hein. C'est quand même terrible. Et Nadal, c'est les meilleurs coups droits du circuit. Federer, c'est les meilleurs revers du circuit. Benoît Paire, c'est les meilleures insultes du circuit. Je ne sais pas si on a retrouvé. Ses insultes sont plus variées que son jeu. Hein. L'image du tennis français n'a pris un coup. Et vous savez que ça n'a pas plu en haut lieu.
Ah.
Pas plu du tout. Surtout à Jean Castex, qui a tenu à recadrer Benoît Paire. Il trouve ça inadmissible. Je ne sais pas ce qu'il va lui dire. À vous, Matignon.
Français de français, le gouvernement est scandalisé par les propos de Benoît Paire.
Bah oui.
Quand on entend de telles sornettes, on en vient à regretter l'époque de ces grands tennismen français qui étaient Henri Lecomte et Serge Blanco.
Ah, bon, écoutez, il y a un problème encore de sport.
Il joue bien au golf, Serge Blanco.
Ils jouent tous bien au golf,
je sais pas.
Tous les sportifs jouent bien au golf. Mais non, mais Henri Lecomte, j'y ai cru. J'ai dit peut-être qu'il va dire Guy Forget. Ben non, pas du tout.
Rugby, allez, bam.
Ça ne va pas.
Ah, c'est vrai que Benoît Paire, quand même.
Franchement, j'en ai rien à branler, franchement, de ce match. J'habite à 2 heures de route chez mes parents. Donc j'ai un double encore. Et puis après, je me cache chez moi. Et arriver dans des cimetières pareils, ça me déprime un peu. J'ai pris 12 000 balles. Alors vous allez encore dire, il parle beaucoup d'argent, mais. Je prends 12 000 euros pour être à l'hôtel tranquille. Mais quel est le plaisir à jouer dans des conditions pareilles? Il y a zéro ambiance, il y a zéro truc, il se passe rien. Alors vous allez tous dire oui, c'est comme la vie normale. Ben, très bien. Ben, moi, la vie normale, je trouve qu'elle est à chier en ce moment. Et le circuit, il est à chier pareil.
La chatte
Et alors si jamais vous avez une photo de lui en train de sourire, envoyez-la nous.
Je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle.
Aïe, aïe.
Vous êtes remplacé dans cette chronique du matin
non.
Par Benoît Paire.
Attendez.
Non, mais vous avez vu, il est magnifique.
Sauf que lui, il n'a pas besoin d'écrire, ça lui vient tout seul.
Mais le CSA va vous tomber dessus parce qu'il y a un gros mot toutes les trois phrases.
Oui, c'est vrai.
Mais après, c'est vrai que les tennismans, ils gueulent jamais, ils parlent jamais. Lui, il fait que gueuler.
Il y avait McEnroe qui était assez incroyable.
Mais oui, mais depuis, on était un peu aseptisés dans le tennis.
Il existe, il exulte. Voilà. Ça lui fait du bien.
Mais dans 20 ans, il fera la pub pour Comme J'aime et ça sera très bien.
Il y avait le joueur iranien Barami, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui,
Mansour. Mansour faisait des acrobaties pas possibles sur le terrain, etc.
C'était un peu l'Harlem Globetrotters du tennis, c'était magnifique.
Ouais. Bah, écoutez, qu'on embrasse d'avoir bien d'ailleurs Mansour Barami.
Exactement.
Vous l'embrassez, Mansour Barami.
Je l'adore, je l'adore.
Je crois qu'il y a eu Anguille Souroge.
Pas du tout.
Et Michael Chang aussi, c'est si ou pas?
Michael Chang,
je pense à ça parce que tennis, je pense toujours à ce geste complètement incroyable. En finale à Roland-Garros où il sert
à la cuillère
comme l'on dit le service
et il gagne
et face à Landel quoi, donc il sert comme un mini mais il gagne comme un seigneur.
Exactement. Oh là là, c'est une belle phrase.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Cédric Cizer, que vous pouvez retrouver du lundi au mercredi à 8h20 dans le Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger et Cécile de Minibus. Merci d'avoir été avec nous. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute de Sud Radio.